Salut à toutes et tous et bienvenue dans l'Enum, l'émission numéro 38. C'est reparti pour un tour, on attaque déjà le 38e numéro du podcast de la rédaction des numériques. C'est Mathieu et j'étais assez impatient de commencer à enregistrer cette émission car on va aborder un sujet qui est à la fois extrêmement prometteur et pourtant terriblement décevant sous certains aspects. Et ce sujet, c'est l'avenir du smartphone, la révolution promise de son format, bref, tout un programme. Alors pour savoir si nos téléphones ont vraiment besoin d'évoluer vers quelque chose de nouveau et faire le point sur les derniers essais plus ou moins concluants en matière d'innovation, je suis ravi d'avoir avec moi Rémi.
Oui, bonjour.
Salut Rémi.
Salut.
Alors on rappelle qu'avant, tu t'occupais de la rubrique mobilité du site et que tu as depuis pris en main de nouvelles catégories de produits.
Mais du coup,
tu as tout un passif avec les téléphones, donc tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus. Et puis, on est tous les deux également en compagnie de Thomas. Salut Thomas.
Salut Mathieu.
Salut. Alors toi Thomas, t'es le nouveau Rémi, hein, entre guillemets. Alors sans le côté pince sans rire, mais avec l'accent du Sud. Et tu gères donc depuis quelques mois cette rubrique mobilité et tu as récemment pu mettre tes mains, non pas dans le pot de confiture, mais sur plusieurs téléphones innovants. Donc je suis très bien entouré avec vous deux pour débriefer ce marché du smartphone qui voudrait faire sa révolution. On se retrousse les manches, on s'écoute un petit jingle et on s'y met de suite. Si on a choisi de vous parler des nouveaux formats de smartphones, c'est pas un hasard. On vient de tester le Surface Duo de Microsoft. Et on va le dire d'emblée, hein, c'était un peu une catastrophe. On va peut-être commencer par là, en vous expliquant pourquoi c'est un très mauvais smartphone. Mais avant de résumer vite fait ce test, il est peut-être intéressant de faire une rapide genèse de ce produit, pas comme les autres. Ça nous rajeunit pas, puisque cela remonte à 2009, il y a presque 12 ans maintenant. Microsoft faisait mouche à l'époque avec la vidéo d'un concept de téléphone à deux écrans assez révolutionnaire. Ça s'appelait le Microsoft Courrier. Est-ce que vous vous en rappelez ?
Vas-y, Thomas.
Moi, j'étais au lycée, donc je t'avoue.
Ça t'a pas marqué plus que ça à l'époque.
Non, ça m'a pas marqué.
Ok. Toi, Rémi ?
Pas plus, non, parce que moi, je sortais du lycée aussi. Excuse-nous, Mathieu.
Donc je fais partie de ces vieux qui ont le souvenir de cette vidéo de Microsoft Courrier. Et effectivement, à l'époque, il y avait eu plein de news qui étaient sorties sur « Oh là là, Microsoft va finir par révolutionner nos téléphones avec son truc à deux écrans, ça va être génial. » Ça fait même Palm en même temps. Enfin, Palm, je vous sors une référence aussi, peut-être que...
Ah oui, pour nager, ouais, tout à fait. J'ai déjà été à la mer.
Bref, à l'époque, Microsoft, il faisait des téléphones. D'ailleurs, ils commençaient à s'intéresser fortement aux téléphones. 4 ans plus tard, ils avaient racheté Nokia pour plus de 5 milliards de dollars. Et là, on s'était dit, à l'époque, moi je faisais partie de cela, je m'étais dit, chouette, Microsoft, ils vont avoir un vrai bras industriel capable de fabriquer de bons téléphones en masse. Mais l'histoire, elle en a décidé autrement. Et puis, du coup, à côté de ça, petit à petit, on a la gamme Surface qui a fait son trou côté PC. Il y a des machines très bien finies qui sont sorties, performantes, avec un design angulaire, moderne, qui a tout de suite plu. Et puis, ça y est, enfin, on s'est dit, Microsoft, se remet à parler de smartphone. Il y a eu des rumeurs de plus en plus insistantes. Ça, Rémi, toi, tu l'as connu à ta rubrique, sur un Surface Phone qui devait arriver. Ça, c'était il y a 4-5 ans. Les rumeurs étaient vraiment insistantes. Il y a d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, des rendus, des mock-ups qui étaient faits par des fans qui circulaient et qui étaient vraiment crédibles et qui donnaient pour le coup vraiment envie.
Oui.
Et finalement, c'est le Surface Duo que présente l'entreprise fin 2019 qui symbolise le retour de Microsoft sur le marché du téléphone. Un téléphone intrigant avec deux écrans qui tournent sous Android. D'ailleurs, vous en avez pensé quoi quand vous l'avez vu, l'annonce de ce truc-là fin 2019 ? Parce que là, pour le coup, vous vous en rappelez forcément.
Tout à fait. Ouais, si je peux me permettre. C'est vrai que quand on a vu arriver le Surface Duo, en fait, depuis très longtemps, effectivement, le Surface Phone, c'était un truc qui faisait un peu rêver parce que les Surface Pro de Microsoft, donc du côté des ordinateurs portables, étaient quand même très sexy et avaient bien réussi à créer un nouveau segment de marché. Alors on attendait un peu la même chose sur le smartphone, du coup, avec un téléphone au design léché, et avec tout le savoir-faire en fait d'une boîte comme Microsoft. Et c'est vrai que quand on a vu le duo, on s'est dit mais attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là ? Il y a quelques mois auparavant, Samsung nous avait plus ou moins présenté son Galaxy Fold avec un écran qui se pliait en deux. Enfin, on était quand même finalement déjà plus loin que ce que pouvait proposer le duo, même avant qu'il soit réellement sorti.
Dès son annonce, il était déjà daté, enfin quelque part un peu en retard, quoi.
Ouais. Rien que dans le concept, en fait, on se disait ouais, c'est quand même un truc qu'on a déjà vu, les deux écrans, ça marche pas, c'est pas exceptionnel. Et en face, on a quand même du pliant qui est beaucoup plus sexy, quoi.
Ouais. Bah, ce téléphone, du coup, il est sorti. On l'a eu en main, on l'a soumis à notre batterie de test habituelle. Et on a pu donner notre verdict. Enfin, Thomas a pu donner son verdict. Et du coup, il est pas bon du tout. Alors, Thomas, tu peux nous dire qu'est-ce qui cloche avec ce Surface Duo ?
Bah, ce qui cloche, c'est que je pense que Microsoft a pris le problème à l'envers avec ce téléphone. C'est que là où Samsung, en fait, avait plutôt mis la priorité sur des bons composants, un téléphone haut de gamme qui en plus se plie. Là, Microsoft a choisi de faire un téléphone qui est fin, qui est très élégant, mais qui du coup intègre peu de choses. Donc par exemple, on va avoir qu'un seul module photo, qui en plus n'est pas bon. Je crois que j'ai regardé sur tous les téléphones des deux dernières années qu'on a testé, il n'y en a que 10 qui sont moins bons que lui en photo.
Ah oui, donc il fait partie vraiment du peloton de fin, quoi.
C'est ça. C'est un iPad, quoi. C'est un iPad d'il y a 10 ans en photo. Et tous ces téléphones-là qui sont moins bons que lui, c'est des téléphones qui sont à 100€ en plus. Donc voilà. En plus de ça, il a une petite batterie. Et une petite batterie pour alimenter deux écrans, forcément, ça coince. Donc niveau hardware, il y a des soucis. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il a une puce Snapdragon 855 qui, donc, elle aussi est datée, qui a été présentée fin 2018, il me semble, et qu'on a vu pour la première fois sur le Mi 9. Donc c'était en mars 2019 et cette puce est très bien optimisée, ce qui fait qu'on peut jouer à des jeux en 60 fps et tout ça, il n'y a aucun souci. Mais autrement, le téléphone n'est pas ouf en termes de hardware, et vu que c'est la priorité chez nous, c'est ce qu'on teste dans nos labos, on a été forcément déçus.
Mais ça qui est ouf, parce que la qualité de fabrication, tu l'as dit Rémi juste avant, quoi, quand ils sont arrivés avec les produits Surface, c'est le truc qui a mis tout le monde d'accord, des matériaux assez nobles, une ligne moderne, des belles lignes, et là du coup on n'est pas super...
Au-delà même des lignes, hein, c'est-à-dire qu'à l'époque des premières Surface Pro, ils mettaient quand même des processeurs Intel relativement puissants dans un châssis de tablette
hyper
plus épais que les tablettes de l'époque, quoi. C'était hyper, hyper fort en termes de conception hardware, c'était bien foutu et ça tournait assez bien. On attendait la même chose en fait sur un smartphone. Et c'est vrai que finalement, ils ont annoncé le Surface Duo il y a un peu plus de 2 ans, je crois. Et le truc est resté à l'état dans lequel il était, en fait, au moment de l'annonce, avec les composants de l'époque. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi.
Alors même que je me souviens, dans ce podcast, on en avait parlé déjà à l'époque de l'annonce, et tu nous disais justement qu'il faut faire attention, c'est qu'un premier prototype, là, pour l'instant, c'est pas viable comme ça. On a bien vu qu'il y avait, comme tu disais, pas de capteur, pas de machin. Je me rappelle très bien, en fait, de ce passage de l'émission. Et en fait, c'est vrai que un an et demi, 2 ans après, bah, ils ont rien changé, ils ont laissé le même truc, quoi.
Bah, c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est Microsoft, hein, ils présentent un truc, c'est relativement sexy, bon, il n'y a pas tous les éléments, mais ils vont peaufiner ça, ils ont encore le temps. Et bah, finalement, c'est comme s'ils avaient un peu rien fait entre-temps, quoi. C'est flippant.
C'est assez ouf. Et du coup, moi, j'ai une question pour toi, Thomas. Vraiment sur la partie utilisation de ce téléphone à deux écrans. Parce que bah, deux écrans, c'est bien. J'imagine qu'ils mettent en avant le multitâche. Mais comment ça fonctionne sous Android, un téléphone avec deux écrans ?
Bah, alors juste pour finir sur les composants, il n'y a pas de puce NFC non plus. Il n'y a pas de 5G. Et donc, vu que c'est un téléphone qui est marketé pour les professionnels, c'est assez dommage aussi.
Effectivement.
Et du coup, ouais, comment ça fonctionne ? Alors, donc c'est un téléphone qui est fait pour augmenter votre productivité. Donc, on peut faire du multitâche. Du coup, on peut lancer effectivement une application sur un écran et une autre application sur l'autre. Ça marche en fait grâce au Microsoft Launcher, en gros, qui est une légère surcouche d'Android, enfin une interface de Microsoft pour Android, qui ressemble beaucoup à du Android stock et qui permet donc d'afficher deux applications à la fois. Et le truc qui est dommage, c'est que Rémi disait qu'ils n'avaient rien fait en 2 ans, mais ils n'ont aussi rien fait depuis 6 mois, puisque quand le téléphone est sorti en août 2020 aux États-Unis, tous les tests disaient que le téléphone était buggé dans tous les sens. Et là, il arrive en février 2021 en France et il est toujours buggé dans tous les sens. Il y a des trucs, il y a des, ouais, y a véritablement des aberrations.
Ouais.
C'est ça. Et il y a des trucs qui sont vraiment pas utilisables, quoi. Typiquement, ils nous disent qu'on peut regarder une vidéo sur un écran et sur l'autre envoyer un message. Mais si tu fais ça, en fait, le clavier prend tout l'écran, ce qui fait que tu ne vois pas ce que tu écris. Et du coup, tu ne peux pas vraiment... Enfin, tu peux pas te corriger, tu peux pas te relire, tu peux rien faire. C'est pas du tout utile.
Non, mais c'est parce que je pense que les pros n'envoient pas de messages.
Non, mais c'était mes craintes. Et en fait, c'est exactement ce que je voulais savoir en te posant la question. C'est que généralement, ce genre de d'appareil un peu, qui sortent un peu des standards, on va dire, si le fabricant fait pas un gros effort d'adaptation du logiciel pour que ce soit ergonomique à utiliser et qu'il y ait des petits ajouts, des petites choses intéressantes à utiliser, bah en fait, ça devient vite une usine à gaz, quoi, le truc.
Non, mais c'est clair. Et puis, enfin, ce qui est assez lunaire, c'est les présentations de Microsoft où ils nous expliquent que, par exemple, on peut regarder Instagram sur les deux écrans en même temps et que ça affiche les photos en grand, sauf qu'en réalité, tu as une énorme bande entre les deux écrans qui fait que ta photo est coupée en deux et c'est pas du tout utilisable, quoi.
Je sais même pas si on a dit combien il vaut ce téléphone. Est-ce que tu peux nous le dire ?
Il vaut 1549 euros.
Voilà, donc là, ça fait très mal.
Bah, pour 300 euros, tu peux acheter une tablette et faire du multitâche dessus, quoi, et couper l'écran en deux.
Bah, non, c'est surtout qu'à ce prix-là, t'as un Galaxy Z Fold 2, en fait.
Bah, ouais. C'est ça, quoi. Il se positionne sur un marché où il y a des... Enfin, sur une niche de marché, on va dire, où il y a des concurrents qui, sur le côté un peu futuriste et nouveaux usages, etc., bah, font beaucoup mieux que lui, quoi.
Bah, c'est ça, qu'ils font des trucs qui sont dans leur époque, quoi. Qui sont dans l'air du temps.
Puis en plus, tu me dis 1549 balles. Moi, je m'attends à avoir, effectivement, la meilleure puce, une super batterie, le meilleur des capteurs photo qui soit. Enfin, je m'attends à un truc où j'ai aucun compromis qui est fait sur les composants qui ont été choisis. Et c'est pas le cas.
C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est une vraie déception de ce côté-là. Et puis, en fait, aussi, par rapport à Samsung, ce qui est intéressant, c'est que Samsung, ils peuvent progresser encore sur le côté charnière, sur le côté pliant du téléphone. Il est encore un peu épais, il est encore un peu massif. Là, Microsoft, ils ont fait un téléphone qui est hyper fin, qui fait moins d'un centimètre d'épaisseur quand il est fermé. Et quand ils vont devoir rajouter des modules photo, rajouter des puces 5G, des antennes millimétriques, des puces NFC, plus de batterie, ce genre de choses, je ne sais pas comment ils vont faire tenir... tous ces composants dans un téléphone aussi fin, quoi. Donc, ils vont être obligés de casser leur design.
La vraie question, c'est est-ce qu'il y aura un Surface Duo 2, en fait, hein.
On peut déjà se poser la question, c'est vrai.
Très sincèrement, vu comme il a été accueilli aux États-Unis, les États-Unis ne sont pas réputés, généralement, pour être très durs hein, dans la presse tech, surtout pour des boîtes américaines. Ils sont souvent plutôt tolérants avec les erreurs de leurs boîtes. Là, le truc s'est fait quand même défoncer partout.
D'autant plus que c'est Microsoft, donc une boîte américaine, qui sont quand même un peu chauvins, qu'ils ont aussi une relation aux appareils très B2B, enfin, toi, machin, ouais. Pro, enfin, ils utilisent des ordinateurs qui sont horribles à longueur d'année, et ils trouvent ça bien, tu vois. Et là, effectivement, l'accueil de la presse a été assez catastrophique. Mais d'ailleurs, je me demande même comment Microsoft, toi, a pu penser. Qui réussiraient à se faire une place avec ce truc-là. Quoi. C'est ça qui est super décevant. Quoi.
C'est symptomatique de chez Microsoft, hein, j'ai l'impression. C'est que c'est une boîte à l'ancienne, une boîte de boomers, comme diraient les jeunes, globalement, qui n'arrive pas trop, qui n'a jamais réussi à prendre le virage du mobile. Microsoft, c'est probablement la plus grosse déception du monde de la tech sur ce point-là, en fait. Ils ont plus raté le virage du smartphone que Nokia, même, en gros. C'est dire à quel point ils se sont plantés.
Nokia, ils étaient pas mal jusqu'à ce qu'ils se fassent justement racheter par Microsoft et que...
Ouais,
ils étaient peut-être
en fait,
arrivés en boutique.
Ils les ont un peu entraînés dans leur chute. C'est que, ouais. Globalement, en fait, il y avait de très bonnes idées à l'époque de Windows Mobile.
L'interface était saluée par tout le monde comme étant une interface très cool.
Ouais, clairement. En fait, ils ont eu des petits soucis, notamment d'applications qui n'étaient pas toutes là. Voilà, c'est une adhésion du public qui a été moins forte. Mais ils avaient de bonnes idées, en fait. Ils avaient des téléphones qui sont emblématiques sur la photo. Enfin, ils ont apporté quand même beaucoup de choses à l'époque. Mais ils ont eu toujours cette volonté de transposer ce qu'ils avaient comme succès sur le PC, sur le smartphone, directement sans adapter vraiment les choses. Et ce qui fait qu'ils étaient capables de te sortir le Lumia 950 avec la fonction Continuum qui te transformait ton smartphone en PC en le connectant à un moniteur. Et en fait, c'était une idée qui, sur le papier, tu pouvais te dire pourquoi pas.
Ouais, ouais.
Dans la pratique, c'est juste que bah, tu avais très peu de choses que tu pouvais faire. Tu avais même moins d'applis que sur un téléphone Android. Finalement, c'était assez compliqué et ils n'ont jamais réussi à s'en sortir. À tel point que les marques avec qui ils travaillaient trouvaient des subterfuges. Je me souviens de HP qui avait lancé le LapDock, qui était finalement un ordinateur portable sans composant d'ordinateur portable auquel tu branchais ton téléphone.
Oui, d'accord, ouais, je me rappelle de ça.
C'était, enfin voilà, ils essayaient vraiment de faire rentrer au chausse-pied le monde du PC dans un smartphone, ouais. Sans se dire que les usages, la façon d'utiliser son téléphone n'est pas du tout la même.
Mais là,
on a un peu l'impression qu'ils refont la même chose.
On aurait pu dire, ils ont compris, tu vois, parce que quand ils arrivent avec leur présentation du duo, on se dit, ah bah ça y est, ils sont bien Android, ils vont choisir un Snapdragon, ils vont faire un téléphone un peu comme les autres, tu vois. Et puis non, en fait, première marche de l'escalier, les mecs, ils glissent sur la peau de banane, et c'est terminé, quoi.
Mais j'aurais presque voulu voir le Surface Duo sous un OS Windows, en fait. C'est-à-dire avec, à la limite, une approche vraiment poussée de leur monde PC, des trucs qu'ils auraient vraiment développés eux-mêmes. Là, ils sont obligés de s'adapter à un OS qu'ils n'ont jamais vraiment utilisé avant. C'est compliqué. On sent que c'est quand même très, très compliqué. Quoi,
c'est clairement ça le problème. C'est que, comme tu dis, c'est au chausse-pied. Et effectivement, ils voulaient créer de nouveaux usages, mais pour créer de nouveaux usages, il faut aussi s'en donner les moyens. Il faut aussi promettre une interface qui permet de nouvelles choses. Là, afficher deux trucs à la fois sur mon iPhone, je peux switcher entre deux applications assez facilement, assez rapidement. C'est pareil, quoi. Là, en présentation, ils nous expliquaient qu'on pouvait à la fois regarder les derniers messages Microsoft Teams et à la fois regarder ses mails.
Ouais. C'est important.
Non, mais voilà. Non, mais pour 1549 €, donne-moi un peu plus, quoi.
Ouais, c'est vrai. Ouais, puis en plus, ça part du principe où t'as toujours le téléphone. Enfin, tu vois, les notifs qui viennent sur ton téléphone, même si t'as qu'un écran, tu cliques dessus, tu changes d'application. Le multitâche, il se fait comme ça. Tu utilises bien ton écran, t'es habitué, ça te tient bien en main. Est-ce que vraiment ce format deux écrans, il apporte véritablement du confort d'utilisation? Je suis même pas sûr, en vrai.
Bah, pas vraiment. Pas vraiment, parce que le confort d'utilisation, on le retrouve sur le Galaxy Z Fold 2 ou sur les pliants de Samsung, parce qu'on a un grand écran. Et du coup, ton texte, par exemple, si tu lis, va s'afficher en grand. Là, ouais. Là, quand Microsoft parle d'un écran PixelSense 8,1 pouces, c'est faux en fait. C'est deux écrans de 5,6 pouces qui sont en 4 tiers. Et si tu veux lire ton article de l'équipe ou des numériques en grand, bah, tu peux pas en fait. Et si tu veux voir ta vidéo YouTube en grand, ça c'est génial ça. En fait, si tu l'affiches sur les deux écrans, ce qui se passe, c'est que le bouton pause est pile sur la charnière. Tu sais, en fait, tu ne le vois pas.
Tu peux pas mettre pause.
Et comme quand même la majorité des YouTubers en plus se mettent au milieu de leur image quand ils se filment,
ah donc t'as pas la tête pas du mec qui parle. Putain, c'est exceptionnel.
C'est génial.
Effectivement. Ah non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que le Surface Duo, il rappelle beaucoup un téléphone qui avait sorti ZTE, qui avait les deux écrans comme ça séparés par pareil une charnière. Et en fait, déjà à l'époque, on se moquait du concept parce que il avait tous ces défauts-là. Après, c'était ZTE, c'était une époque où il y avait pas grand-chose en face pour comparé, finalement, il y avait une part d'innovation. Microsoft, ils arrivent deux ans après, ils ressortent la même chose avec les mêmes erreurs. C'est fou. Et tu te dis, Microsoft n'a même pas eu le poids pour aller voir YouTube, enfin, ou Google, et faire quelque chose d'un peu plus...
Faites-nous quelques applis optimisées, quoi.
C'est ça, des trucs custom. Enfin, ça paraît fou, en fait. Ouais. Tu sens que Microsoft n'a vraiment aucun poids dans le monde du mobile, c'est dingue.
Une fois qu'on a dit tout ça, finalement, je me dis, ils auraient tout eu à gagner, à prendre effectivement beaucoup moins de risques en vrai, revenir à un téléphone Surface, tout ce qu'il y a de plus classique, qui était performant partout, avec un seul écran, un design moderne. À la limite, ils mettaient quelques applis Microsoft Windows bien intégrées pour que l'écosystème fonctionne un peu mieux. Et puis, ça faisait le taf, je pense. Hein.
Ouais. Ouais, mais ces téléphones-là, on en a 500 déjà, donc bon.
Ouais, c'est vraiment nécessaire. Avec l'image de marque Microsoft, avec leur force de frappe commerciale, avec tu sais, le design de Surface derrière, ils en auraient vendu quand même quelques-uns.
L'image de marque de Microsoft, pour beaucoup de gens, c'est Windows XP ou Windows Vista, tu vois. Enfin,
ouais, dans le monde pro, c'est pas
non plus une marque qui fait vraiment rêver, quoi.
Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, la question que ça pose, tout ça, c'est un peu la question hein, de cette émission, c'est bah, est-ce que le format du smartphone, il a vraiment besoin d'évoluer? Est-ce que le téléphone qu'on utilise tous au quotidien, il n'est pas déjà hyper optimisé? En fait, c'est pas juste le meilleur format. Et arrêtons de chercher des trucs hyper futuristes ou des trucs qui servent à rien, quoi.
Bah, dans un sens, en fait, le format des smartphones, il évolue parce que les usages évoluent, en gros. On a eu la capacité de regarder plus de vidéos, de faire plus de jeux partout. Du coup, les écrans se sont agrandis pour que ce soit plus confortable.
Ouais.
C'est les choses suivent un peu dans cet ordre-là. Aujourd'hui, proposer un nouveau format sans qu'il y ait d'usage derrière, c'est un peu ce qui est arrivé au départ avec les pliants. Hein. Le premier Galaxy Fold, finalement, il y avait assez peu de choses qui avaient été faites pour un smartphone de ce type-là. Ils ont un peu revu les choses avec le Z Flip en prenant en compte certaines possibilités du fait qu'il se plie. Mais c'est vrai qu'au début, en fait, on a parfois l'impression que les mecs essayent de réinventer un truc sans se poser la question pourquoi est-ce qu'on le réinvente. Et Microsoft, là, pour le coup, enfin pour moi, c'est vraiment évident qu'il n'y a pas d'usage derrière la façon dont ils ont fait les choses. Après, quand tu utilises un Z Fold 2, ou enfin tous ces. Même le truc à présenter Oppo, là, Oppo X.
Ouais, le Oppo X.
Bah, tous ces trucs-là, en fait, qui t'apportent un très grand écran et où tu te dis, bah ouais, c'est cool, là, je vais pouvoir regarder une vidéo. Mais en même temps, quand j'ai envie d'envoyer un SMS, j'ai juste un petit téléphone. Ça, c'est cool.
Ouais. Ouais, c'est bah, ça, c'est en, ça fait, le truc, en fait. Vas-y, Thomas.
Ouais, non, mais c'est ça le truc, c'est qu'effectivement, le Oppo X ou les pliants de Samsung, ils sont dans la continuité des usages qu'on fait déjà, en fait. Là, avec ce Surface Duo, on est sur un autre truc dont la nécessité n'est pas réelle, quoi. Et j'ai l'impression qu'il force un peu les choses, quoi. Là, pour le coup, est-ce qu'on va avoir de nouveaux usages avec les pliants? Ça, je suis pas sûr. On va juste avoir une optimisation de ce qu'on fait déjà, quoi.
Si on regarde un peu dans le rétro, en fait, on avait donc le premier smartphone qui était un peu trop gros, qui allait peut-être pas assez vite, etc. Donc on a eu les nouveaux réseaux mobiles qui sont arrivés et qui ont permis d'aller plus vite. Comme tu l'as dit, Rémi, des écrans se sont agrandis parce qu'on a fait plus de choses multimédia dessus. Ensuite, il y a eu ces dernières années très fortement la question de l'autonomie. Ça, c'est un truc qui saoulait tout le monde, de devoir recharger son téléphone tous les soirs, voire deux fois dans la journée. Donc ils ont quand même tous plus ou moins bossé là-dessus. On a des téléphones maintenant qui sont en plus plus gros, donc qui prennent des plus grosses batteries et qui ont plus d'autonomie. Et en fait, c'est ça, on est à une sorte de moment charnière où c'est quoi la suite? Et à part, comme vous les avez cités, les Oppo, les Z Fold, etc., qui proposent quelque chose, en fait, des encore plus grands écrans, etc., une expérience encore plus premium, on va dire, bah, c'est la seule voie vers laquelle on va pour l'évolution du format, j'ai l'impression.
Oui. Bah, d'autant qu'aujourd'hui, le marché, en fait, avant, on pouvait se dire qu'il y avait une place pour ce type de produit un peu hybride entre le téléphone et l'ordinateur. Aujourd'hui, les ordinateurs portables, c'est ce qui se vend le plus. Il y a quand même plus grand monde, à part vraiment les joueurs ou dans les entreprises qu'on achète mais même dans les entreprises, maintenant, on achète du laptop.
Ouais.
D'autant plus maintenant, avec toutes les questions de télétravail qui vont se poser. Enfin, globalement, en fait, aujourd'hui, avoir un format comme ça, un peu bâtard, qui va demander à la fois de la place pour être utilisé, mais pas être hyper pratique, être moins pratique que ton ordinateur pour certaines choses, mais plus encombrant que ton téléphone pour les autres, c'est un peu le cul entre deux chaises. C'est pas terrible. Ça rappelle, enfin, en gros, un petit peu, c'est comme s'ils avaient leur Surface Pro, mais qu'ils l'avaient raté, quoi. Ils ont leur Surface Pro, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait un vrai téléphone pour accompagner le Surface Pro.
C'est clair, ouais, bah c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, les téléphones qui sont dits futuristes, bah nous on en teste, on en prend en main. Là, je sais que Thomas, par exemple, tu as pris en main l'Oppo là, dont tu parlais, je ne sais plus c'est quoi exactement son nom.
Oppo X.
Oppo X. Moi, quand j'ai vu la vidéo, par contre, ça m'a, pour le coup, ça m'a mis dans le futur. Ça, ouais. Je me fais, ça c'est un truc que j'avais jamais vu. En fait, ça, c'est, pour moi, c'est de la science-fiction, c'est encore dans. Je suis dans un film, quoi.
Ah mais c'est clair, c'est assez ouf en vrai, puisque j'ai pu...
Explique-nous rapidement où elle fonctionne. Bien.
Ouais, en fait, le fonctionnement, c'est que c'est un téléphone tout à fait normal, c'est-à-dire c'est un écran d'un peu plus de 6 pouces, donc assez grand, mais au format classique. Et quand on double-clique sur le bouton de déverrouillage, l'écran se déroule, en fait, et devient beaucoup plus grand, adopte un format 4 tiers, et ça se fait en une ou deux secondes. C'est assez ouf, en vrai. C'est assez cool parce que du coup, en fait, il y a vraiment ce côté, j'ai un petit téléphone dans la poche et d'un coup, bam, c'est une tablette. Donc ça, il y a vraiment le côté futuriste, il y a vraiment le côté, ok, ça, c'est un nouvel usage que je peux imaginer, quoi.
Comme le Z Fold, là, mais avec cet aspect motorisé qui se déroule encore plus effet waouh, quoi.
C'est ça, parce qu'en fait, le Fold, ça reste une brique dans la poche. Là, c'est vraiment un téléphone normal. Tu vois quelqu'un avec, tu te dis pas que c'est un téléphone qui va se dérouler et qui d'un coup va être super grand, quoi. Donc ça, c'est assez ouf. Le problème, c'est que c'est un proto, clairement. C'est-à-dire qu'il s'éteint quand il passe en dessous des 50% de batterie, il n'y a pas de module avant. Enfin, c'est... Voilà.
Ils ont la volonté quand même d'aller le commercialiser celui-là à terme ?
Non, ils ont insisté en disant à peu près 40 fois en 20 minutes qu'ils n'avaient pas le commercialisé. Et c'est un écran d'ailleurs Samsung Display, donc moi j'attends plutôt Samsung de ce côté-là. Je pense que Samsung attend d'avoir un truc qui fonctionne assez bien pour le présenter. Mais pour l'instant, non, le Oppo X ne devrait pas sortir.
Après voilà, Oppo il te présente un concept, c'est l'Oppo X, un truc qui te fait rêver. Microsoft il te présente un concept, c'est le Surface Duo. Il te fait pas rêver même au moment où il le présente.
Ouais, mais tu peux l'acheter chez la Fnac.
Ouais. Mais en vrai, l'Oppo X, ils disent qu'ils vont pas le sortir parce que je pense qu'ils ont énormément de défis à relever sur de la production. On le voit, LG a eu beaucoup de mal avec son écran enroulable de télé. Ils ont plus ou moins laissé tomber le truc parce que c'était trop compliqué en fait à produire. Donc je pense qu'il y a toute cette part de défis techniques qui attend et défis industriels en fait qui attend.
Alors que là aussi, il y avait vraiment un marché, parce que je me rappelle quand on a vu cet écran de télé qui, on sait très bien que des gens qui achètent des télés hors de prix, il y en a plein, et ils auraient mis en prod ce truc-là, ils ont fabriqué 1000, ils vendaient les 1000 dans la seconde.
Oui, c'est clair.
C'est clair, c'est clair.
Après, je pense qu'ils ont fabriqué 1000, ils perdaient leur million.
C'est vrai.
C'était un gouffre financier, ce truc-là. Mais on a rêvé, en fait. Ouais. T'as besoin de faire rêver les gens aussi un petit peu... Alors, c'est un peu de l'investissement dans de la com, hein. Et ça, Oppo le fait assez bien. Les marques chinoises, en général, le font assez bien. Comment faire rêver les gens avec des trucs qui sortiront peut-être jamais. Xiaomi, il y a quelques années, nous avait présenté un smartphone pliable qui était le plus cool en termes de concept qu'on avait vu à ce moment-là, puisqu'on n'en avait eu aucun entre les mains. Et pour le coup, le truc n'est jamais sorti, mais ça donne une image de boîte qui innove, plus que de Microsoft qui te sort un truc, c'est pas possible.
C'est ça.
Et eux, ils ont parfois du mal à... Alors, certaines marques tentent des trucs, font des vidéos, etc., qui nous font rêver, ou font des protos qui sont assez cool, mais ils ont quand même du mal, globalement, à passer l'étape supplémentaire. Est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que testeurs, il y a des trucs qui nous viennent en tête, ou quand on teste un téléphone, on se dit, s'ils avaient fait ça, ce serait génial, et en fait, c'est vers ça qu'il faut que l'industriel tente pour révolutionner le smartphone. Est-ce qu'on a déjà eu ce genre d'idée ou pas du tout ?
Je te dirai ce que tu en penses après, Rémi, mais moi, ce que je trouve... Enfin, là où je pense que les constructeurs doivent progresser, c'est sur l'interface. Souvent, on a des problèmes d'expérience utilisateur, en fait, plus que de hardware. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des mobiles qui passent par nos labos, ils prennent des photos qui sont quand même potables. Ils ont des performances qui tiennent la route, ont une autonomie, comme tu disais tout à l'heure, qui est plutôt bonne. Donc pour moi, le prochain défi, c'est un peu de tendre vers ce que fait Apple, par exemple, avec une interconnectivité de tous les produits qui est hyper fluide, où tu n'as pas besoin d'un manuel pour comprendre comment faire tel ou tel truc et que ça roule, quoi.
Oui, ouais, c'est clair qu'il y a toute cette partie-là qui est améliorée, mais qui est un peu inhérente au problème que peut rencontrer un OS qui est utilisé par des centaines de marques en fait, dans le monde. Forcément, ça, ce sera toujours un problème. Après, d'un point de vue plus hardware, pour moi, là où il y a des vrais progrès à faire, qui me paraissent pas compliqués. Après, je suis pas ingénieur, donc c'est assez difficile aussi de savoir ce qui est réalisable ou pas. Ce que j'aimerais voir, en tout cas, c'est des smartphones qui deviennent vraiment meilleurs en photo, qui passent vraiment un cap en photo, qu'on arrête de me vendre du 108 mégapixels pour faire du zoom x100 et qu'on me mette du 12 mégapixels sur un capteur de la même taille, tu vois. Et là, on s'approchera de choses qui sont beaucoup plus intéressantes, à mon avis, en termes de qualité.
C'est vrai que le smartphone, il a remplacé beaucoup de choses. Il a remplacé notre baladeur, parce que moi, j'ai eu des baladeurs. Hein, on en revient à ce que t'es.
J'en ai eu aussi, t'inquiète pas.
Non, mais tu vois, il remplace plein de trucs. Mais par contre, quand je pars en vacances, j'ai toujours un appareil photo avec moi. T'sais, c'est le truc, en fait, qui remplace pas pour l'instant, parce qu'il est super pour prendre en photo le plat ou faire un petit zoom, un petit truc, un petit selfie. Mais faire la vraie photo de paysage que tu vas avoir envie de travailler, etc., le smartphone, il est encore pas, en tout cas pour moi, à la hauteur. Et pourtant, je suis pas un photographe hyper expert, mais. Je vois encore une différence dans le rendu.
Ouais. Après, le truc, c'est que je pense que t'es pas la cible des constructeurs de smartphones. Enfin, on voyait Samsung récemment qui expliquait qu'ils lissaient à mort leurs images parce que les gens voulaient ça, voulaient des images lissées. Donc effectivement, ouais, c'est aussi un
parti pris. Oui, il y a la photo que tu fais pour les réseaux sociaux, puis t'as la photo que tu fais aussi pour garder imprimée. Ouais,
c'est ça. Nous, on zoome dedans, on regarde le piqué, on regarde des trucs hyper précis. Je pense que la majorité des gens... Ils prennent leur photo, ils la mettent sur les réseaux et jamais ils vont l'afficher sur un grand écran, sur une télé ou un vidéoprojecteur. Donc, au final, on s'en fout un peu de la qualité.
Non, quand on regarde,
Non, mais quand on regarde l'industrie du smartphone où elle va, souvent, il faut le reconnaître, c'est quand même Apple qui a tiré le truc ou qui a en tout cas popularisé les concepts, démocratisé les choses. Et là, j'ai l'impression que, tu vois, on a vu leur dernier redesign de smartphone qui est en final hyper classique, même s'il est cool. Et eux, ce dont ils parlent actuellement, c'est la réalité augmentée, c'est les wearables, c'est peut-être leurs lunettes, tu vois, ils parlent d'hologrammes, de réalité augmentée à tous les niveaux. Est-ce que finalement l'industrie c'est pas ça la prochaine étape finalement?
Si, clairement. Ouais. Les relais de croissance, ils vont être là, ils vont être autour du smartphone. Le smartphone en lui-même va peut-être pas beaucoup progresser, va peut-être pas beaucoup évoluer, mais tout ce qu'on pourra faire autour va progresser. Et en fait, justement, moi à la limite, ce que je trouve intéressant, c'est des approches comme celle d'Asus sur le ROG Phone qui propose plein d'accessoires pour le gaming, par exemple, qui rendent vraiment l'expérience du jeu sur mobile plus plaisante. Avec l'explosion du cloud gaming et tous les super trucs en fait qui existent aujourd'hui pour jouer à des jeux des grands noms en fait de jeux auxquels on jouerait sur une PS5 ou une Xbox, mais sur son téléphone, c'est en gros ça aide à l'adoption de tout ça, d'avoir des bons accessoires qui vont faire que ça fonctionne. Donc je pense que ça va le faire. Après effectivement, toute la question en fait, c'est comment tout ça s'intègre dans un truc aussi complexe qu'Android, parce que autant quand t'es Apple et que tu gères ton OS parfaitement, ton hardware parfaitement et que t'as la main sur tout, c'est assez facile de faire rentrer quelque chose dans ton écosystème, tu bosses bien le truc, ça parle avec tous tes produits, très bien. Quand tu travailles avec Android, c'est beaucoup plus compliqué.
Toi, ça te branche toi Thomas, les lunettes en réalité augmentée, genre de truc? Enfin, je sais pas, c'est un truc qui t'intéresse quoi.
Moi, particulièrement, après, je teste les montres pour les numériques. Et c'est vrai que sur les montres, on voit que ça progresse, que de plus en plus de gens s'en achètent. Et effectivement, c'est un truc qui doit accompagner les téléphones. Je suis assez d'accord avec Rémi sur les relais de croissance. Après, j'ai l'intuition que notre société va s'effondrer écologiquement. Donc, on va arrêter les conneries, mais voilà.
Ouais. Ouais, bon, on verra ça. Que nous réserve le futur, hein, on sait pas.
Faut se dire qu'un jour, ça se trouve, avec ton téléphone, tu pourras lancer une conférence Zoom avec des hologrammes.
Mais j'allais parler d'hologrammes, je voulais dire peut-être qu'un hologramme de Steve Jobs va venir et va nous réinventer le smartphone sur un One More Thing venu, je sais pas, de l'espace.
Ouais.
Ce serait incroyable.
Ce serait beau.
Je sais pas, en tout cas, ce que je sais. Ça, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est la fin de cette émission.
Il faut s'arrêter là-dessus.
Et ouais. Et que je vous remercie, hein, chers collègues, bien bas, d'être venus nous éclairer de vos lanternes sur toutes ces thématiques. C'était comme toujours très enrichissant. Je fais également de gros poutous à Benoît, qui s'occupe du record, du montage et du mixage de l'émission. Et oui, il fait tout ça. Et puis, toute la rédaction joue à moi, évidemment, pour saluer les auditeurs, hein, en espérant que vous avez passé un bon moment en parlant de smartphones du futur et actuel. Et d'ici la semaine prochaine et le 39e épisode de l'Énume l'émission, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Salut tout le monde.
Salut.